France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, le compositeur que je vous propose de rencontrer aujourd'hui a croisé tous les grands noms de la musique française du 19e siècle. Gounod, Meyerbeer, Saint-Saëns, Auber, Fauré, Lalo. Il fut aussi très proche de César Franck, mais sa musique ne resta connue que d'un cénacle d'amateurs éclairés. Aujourd'hui, c'est par la littérature et non le disque ou le concert que l'on mentionne son nom. C'est en effet grâce à Proust et à sa recherche du temps perdu que Georges Vinteuil est passé à la postérité. Personne n'avait encore rédigé une biographie complète du musicien. C'est désormais chose faite grâce à Jérôme Bastianelli, mon invité. La vraie vie de Vinteuil, de Jérôme Bastianelli, aux éditions Bernard Grasset, collection Le Courage. Pierre Amoyal au violon, Anne Kefelec au piano, c'était le début de la première sonate pour violon et piano de Gabriel Fauré. Bonjour Jérôme Bastianelli.
Bonjour Philippe.
Vous êtes directeur général du musée du Quai Branly, vous êtes collaborateur du magazine Diapason, également président de la Société des Amis de Marcel Proust, auteur qui évidemment a une importance avec le compositeur qui nous intéresse aujourd'hui, Georges Vinteuil, compositeur dont la vie couvre tout le 19e siècle, hein, puisqu'il est né en 1817 à Versailles et mort à Montjouvain en 1895. C'est la première fois donc qu'une biographie est consacrée à ce compositeur. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu déjà de son univers familial? Est-ce qu'il vient d'une famille dans laquelle la musique était pratiquée?
Oui, ses parents étaient tous les deux musiciens amateurs. Son père, qui était ingénieur dans les travaux publics, il construisait des ponts. Mmh. Il est mort d'ailleurs un peu après, en revenant du chantier du viaduc de Meudon.
Dans un accident de calèche,
en descendant, il n'y avait pas les... Il y a une route très glissante qui descendait vers Paris. Et malheureusement, un jour de pluie, en pleine nuit... Il y a eu cet accident malheureux qui a laissé Vinteuil orphelin assez jeune.
Il avait 20 ans, c'est ça ?
Il avait 20 ans. Ouais. Mais il a eu la chance, grâce à son père et à sa mère, d'écouter de la musique. Sa mère était pianiste aussi amateur. Et il a d'ailleurs joué un peu de quatre mains plus tard, quand elle était devenue veuve. Il a fait des quatre mains avec sa mère. Et ça, tout de suite, il a été passionné par ce qu'il entendait et ça a motivé ses parents à lui faire suivre des études musicales.
Oui, assez poussé, parce qu'il entre au Conservatoire de Paris.
Oui, il entre au Conservatoire de Paris. Il a même, il reçoit même le prix de Rome, mais comme c'est quelqu'un d'un peu timide, On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tous les cas, au moment où il apprend qu'il va avoir le prix de Rome, son père écrit à Cherubini pour dire que non, c'est pas possible, son fils ne pourra pas, il est trop jeune, il ne pourra pas partir à Rome. Et la cariatre Cherubini décide que, puisque dans ces conditions-là, on va retirer son nom du procès-verbal et on va donner le prix de Rome à celui qui est venu, qui était juste après lui dans la liste des concurrents.
Et est-ce que vous pensez, Jérôme Bassanelli, que justement le fait d'avoir refusé ce prix de Rome a nuit à sa carrière de musicien, probablement quand même, non ?
Ça a pu nuire, mais je pense que c'est plus la conséquence d'un caractère un peu renfermé, peut-être timide, un peu
Oui, vous écrivez qu'il avait un caractère comme à la fois sombre,
un peu solitaire, sombre, triste, ça en général qui a pu nuire effectivement à sa carrière, et ainsi que, quand même, il faut aussi le dire, l'extrême modernité de sa musique qui
a vraiment décontenancé ses contemporains.
À la fois dans la forme, dans les...
Oui. On y reviendra tout à l'heure, mais effectivement...
Dans son harmonie, dans ces jeux mélodiques qui ont quand même 50, voire 60 ans d'avance, presque, par rapport à ce qu'on...
Alors, du coup, Jérôme Bassanelli, ce Georges Vinteuil a connu une vie musicale vraiment très, très modeste et très en retrait, vraiment dans l'ombre des grands noms de son époque, même si, vous l'expliquez très bien dans votre livre, il les a tous côtoyés, quoi.
Il les a côtoyés, et en plus, ils se sont tous plus ou moins inspirés de lui à partir du moment où il écrit cette fameuse sonate qui est à peu près la seule œuvre qui va connaître un petit succès du vivant de Vinteuil. Donc, c'est une œuvre qu'il écrit en 1870. Et la plupart, on vient d'écouter la sonate de Fauré. Oui. Fauré s'est inspiré en 74 de la sonate de Vinteuil. Puis tous, Saint-Saëns ensuite, bien sûr César Franck, qui était un grand ami de Vinteuil, il trouvait que la sonate de Saint-Saëns, qui était elle-même inspirée de celle de Vinteuil, n'était pas forcément l'œuvre la plus réussie qu'on pouvait espérer faire à la sonate de Vinteuil. Donc il décide lui-même d'écrire cette grande sonate qu'on connaît, qu'on a tous dans l'oreille, pour essayer de faire encore mieux en s'inspirant de Vinteuil.
Thank you.
Un extrait du pas de deux, extrait du premier acte du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, l'Orchestre Symphonique d'État de Russie, dirigé par Vladimir Jurovski. Jérôme Bastianelli, Tchaïkovski aussi un compositeur que Georges Vinteuil a pu croiser, sinon au moins entendre sa musique, parce que
On ne sait pas s'ils se sont croisés, mais ouais. Tchaïkovski, qui aimait beaucoup Paris, est venu régulièrement à Paris, et notamment, on sait en revanche qu'en janvier 76, donc 6 ans après la composition de la sonate de Vinteuil, Tchaïkovski est à Paris et il a la chance d'écouter une soirée, on ne sait pas exactement qui joue, mais il a la chance d'écouter une soirée chez Jules Padeloup, la sonate de Vinteuil. Alors il est, comme la plupart de ceux qui l'entendent pour la première fois, il est émerveillé. Et c'est précisément le moment où il écrit il est en train de commencer à composer le Lac des Cygnes. Et donc il va mettre des réminiscences de cette sonate, comme celle qu'on vient d'entendre. Dans le ballet. Et on pense que c'est d'ailleurs en pensant à ces réminiscences, comme Proust était vraiment un fin mélomane, qu'il a choisi le prénom d'Odette dans Un amour de Swann pour accompagner justement l'histoire qui se passe autour de la sonate de Vinteuil.
Et puis Swann aussi, vous expliquez.
Odette et Swann,
le signe, bien sûr.
Voilà. Ça serait un petit clin d'œil à Tchaïkovski que Proust aurait fait dans son roman en ayant Vinteuil en tête également.
Alors, j'ai parlé des grands noms de la musique française, on vient de parler de Tchaïkovski, il y a aussi Mendelssohn qu'on croise, aussi Wagner qui a manifestement, comme beaucoup, il a marqué énormément Georges Vinteuil.
Oui, Vinteuil a assisté au concert que Wagner donne à Paris en 60, puis aux fameuses représentations de Tannhäuser en 61. Et malgré la défiance que la figure de Wagner lui inspire, c'était pas du tout son genre de caractère, son genre de comportement. Wagner était beaucoup plus sage que Wagner, donc Wagner ne pouvait que l'inquiéter. Et il est complètement subjugué, évidemment, par cette musique, notamment par le prélude de Tristan qu'il entend en 1860 et qui, cette harmonie incroyable, nouvelle, il va lui aussi s'en inspirer. Il va rendre hommage de différentes manières à Wagner dès 1860.
Jérôme Bastianelli, on parlera un petit peu plus tard, on rentrera vraiment dans les partitions de Georges Vinteuil, mais vous nous l'avez dit, c'est une musique qui a décontenancé ses contemporains, qui était très en avance, qui était très moderne et qui était vraiment à l'opposé finalement du personnage dont vous le présentez comme quelqu'un dont les idées politiques sont finalement plutôt conservatrices. Il écrit un lamento en hommage donc à Louis-Philippe, il est très réservé, écrivez-vous le goût de l'ordre. C'est un personnage finalement assez difficile à cerner, à saisir.
Oui, c'est quelqu'un effectivement comme d'ailleurs le dit Proust, si on le croisait dans la rue, on n'avait aucune idée qu'il pouvait être un compositeur génial, innovateur, il avait effectivement des goûts assez classiques, ordonnés, conservateurs, comme vous l'avez dit. Vous avez rappelé la musique pour Louis-Philippe, il a aussi écrit une musique pour Charles Dagout qui lui a valu d'ailleurs une petite querelle avec Liszt
parce qu'il désapprouvait totalement le comportement
Dagout, donc il avait pris le parti du mari et au moment de la mort du mari, il décide de lui rendre hommage en lui écrivant, en lui composant, en composant une pièce à son attention. Donc, effectivement, et voir que quelqu'un comme ça, malgré ce mode de vie, ses pensées politiques et sociales, est complètement s'enflamme complètement pour le prélude de Tristan.
C'est
la magie de la musique. Quoi.
Et vous rappelez aussi un épisode où il va voir dans sa loge le violoniste Pablo de Sarasate qui ne peut pas croire qu'il a devant lui ce grand compositeur grossièrement vêtu. Écrivez-vous.
Et donc il se vexe considérablement parce que Pablo Sarasate veut pas imaginer que l'homme qu'il a devant lui est le compositeur de la sonate, donc il le néglige. Et Vinteuil en est évidemment très très frustré, très vexé. Thank you.
Le trio Nuori interprétait ce scherzo extrait du trio numéro 1, opus 4, d'Alexis de Castillon. Alexis de Castillon, Jérôme Bastianelli, un jeune confrère et ami hein, de Georges Vinteuil.
Oui, qui avait même été son élève.
Son élève, voilà.
Alexis de Castillon était originaire de Chartres et il se trouve qu'à ce moment-là, Georges Vinteuil lui-même était à Chartres, donc il a pu être professeur particulier d'Alexis de Castillon pendant quelques années avant que Castillon ne parte pour Paris. Puis ensuite, il a fait une carrière à mi-chemin. Enfin, il a partagé entre le métier des armes et qu'il a finalement abandonné la composition. Puis il est mort très jeune.
Très jeune, Alors, Jérôme Bastianelli, peut-être que depuis le début de cette émission, nos auditeurs cherchent désespérément dans leurs histoires de la musique ou sur Internet davantage de renseignements sur Georges Vinteuil. Peut-être faut-il enfin donc leur dire que nous ne sommes pas le 1er avril hein, et votre livre n'est pas une farce, mais c'est une biographie fictive, imaginaire hein, de ce compositeur.
Oui, tout à fait. En fait, Vinteuil, comme il faut le révéler maintenant à ceux qui en douteraient encore, Vinteuil n'a pas existé. C'est une figure, c'est un des personnages à la fois majeur et finalement anecdotique de la recherche en perdu, anecdotique parce qu'on sait très peu de choses sur lui, et majeur parce qu'il symbolise une des théories de Proust justement sur la dissociation entre la vie sociale d'un artiste et son œuvre. Et comme on sait très peu de choses sur lui, mais qu'en même temps il est fascinant, j'ai voulu remplir les trous et inventer ce qu'aurait pu être sa vie à partir des quelques éléments, rares éléments que Proust donne, justement, sur son caractère et puis aussi sur sa fille, qui tient aussi un rôle important dans la recherche du temps perdu.
Et Jérôme Bastianelli, en fait, ce qui est fascinant dans votre travail, dans votre roman, j'ai envie de dire, quand même, parce que c'est une biographie extrêmement romancée, c'est que quand même, tout l'environnement social, musical, politique est tout à fait réel. Vous avez dû faire de grosses recherches quand même pour cerner au plus près quand même l'environnement dans lequel Georges Vinteuil évoluait.
Oui, j'ai voulu essayer de respecter un principe simple qui était qu'à chaque fois que j'évoquais un personnage réel, et il y en a quand même beaucoup dans ce roman, ce qui était dit de lui, sauf impossibilité majeure, devait être exact. Donc les dates, les événements, les concerts, tout ça est exact. Et on voit après, sur ces points d'appui, j'ai voulu tisser la fiction et la vie de Vinteuil, comment il aurait pu essayer d'être aussi objectif que possible, aussi précis que possible, comment il aurait pu évoluer dans ce milieu musical et politique, parce qu'il y a effectivement un siècle est traversé de grandes crises, la révolution de 48, la guerre de 70, etc. Et comment, quel aurait pu être son comportement à cette occasion-là.
Ouais. Et même j'ai pas vérifié tous les personnages, mais enfin, certains petits noms, comme le prof d'un conservatoire, un professeur de conservatoire, Pierre Timmermann, a vraiment
existé.
Il
a existé.
Il y a beaucoup, on voit défiler comme ça, des personnages vraiment secondaires, mais qui sont réels, quoi.
Voilà. Donc, j'ai voulu que ça soit aussi plausible que possible.
Et ça l'est, parce qu'effectivement, on lit ce livre de la première à dernière page en étant absolument convaincu que tout ce qu'on lit est parfaitement exact.
Ouais. Oui, on a presque envie de pouvoir écouter les œuvres de Vinteuil. Maintenant que des compositeurs s'inspirent du livre pour composer les œuvres, on vendrait aussi un coffret de l'intégrale de Vinteuil en 6 disques.
Oui, d'autant qu'à la fin, vous faites comme une liste hein, de toute sa musique qui finalement couvre un champ assez large, la musique de chambre, la musique sacrée, la musique vocale.
Oui, même une symphonie.
Oui, alors justement, avant qu'on s'attarde sur cette fameuse sonate, comment est-ce que vous avez imaginé ce corpus musical, donc qui n'est pas limité ni à la sonate, ni au septuor, qui sont évidemment évoqués par Proust, mais
plus large. J'ai voulu retenir ce que Proust nous dit de Vinteuil, que c'était quelqu'un qui avait des idées artistiques très, très modernes, donc il fallait forcément que ce soit des œuvres qui choquent un petit peu, enfin qui soient très en avance sur leur temps. Et puis Proust nous dit aussi qu'on connaissait très peu de choses sur Vinteuil, donc j'ai voulu aussi montrer que c'est des œuvres qui soit n'avaient pas pu être créées de son vivant pour tout un tas de raisons, soit quand elles avaient été créées, ça avait provoqué un tel four que personne n'en avait jamais, avait jamais souhaité les réentendre. Puis j'ai voulu essayer enfin évidemment il va pas écrire du jazz ni du rock, mais j'ai voulu essayer d'imaginer ce qu'aurait pu être un compositeur très novateur, qu'est-ce qu'il aurait écrit, quoi, qu'est-ce que, quel type d'œuvre il aurait pu écrire.
Vous mentionnez un sextoire à transformation qui est l'œuvre de musique de chambre la plus originale du 19e siècle français, rien que ça.
Et oui, parce que j'ai voulu imaginer un sextoire où entre chaque mouvement, et à 7 mouvements, et entre chaque mouvement, un instrumentiste est remplacé par un autre instrument.
C'est ça, ouais,
ça, ça donne un caractère un peu baroque, peut-être, un peu inattendu à cette pièce.
Cette œuvre pour percussion, la Mikado, qui doit être aussi très en avant sur son temps, voilà, j'imagine.
Je vais en faire un précurseur de Varèse. Aussi un quatuor avec des notes très longues qui pourrait presque aussi être comme une anticipation du minimalisme musical.
Ouais, ouais. Mais voilà. Ça a été très mal reçu quand même.
Oui, tout ça.
Galimatia d'accords inusités et dissonants, refus de la ligne mélodique, trop difficile à chantonner, vraiment le pauvre. Des miaulements chromatiques même. Vraiment, ça, sa musique a été mal reçue.
On m'a parlé. Quand elle a été très rarement jouée de son vivant, et quand elle l'a été, elle a été mal reçue.
Le début du prélude du premier acte de Tristan et Isolde de Richard Wagner, la Staatskapelle des Dresde, dirigée par Carlos Kleiber, Jérôme Bastianelli. Il semblerait, donc à vous, on vous croit, que cet accord de Tristan le fameux est cité donc dans le final, hein, je crois, de la sonate.
De la sonate,
oui. Ça, donc, alors, on imagine donc, que cette sonate en trois mouvements, c'est ça vous
C'est
vous
ça,
dites
enfin, on recompose, on essaye de reconstituer ce qu'a pu être la sonate en prenant des bouts épars des descriptions qu'en fait Proust, parce que Proust ne la décrit pas à un seul endroit, donc il faut aller piocher à différents endroits de la recherche.
Le puzzle,
ainsi, on peut reconstituer qu'elle est en trois mouvements.
C'est ça, andante, scherzo et finale, et le scherzo, dites-vous, préfigure malheur, rien que ça.
Voilà, je me suis dit qu'il fallait quand même que là, une fois de plus, Vinteuil soit... Ça, c'est pas Proust qui le dit, je suis pas certain qu'il ait connu malheur, mais voilà, je me suis dit qu'il fallait que Vinteuil soit une fois de plus précurseur.
Ouais. Et donc, vous la présentez comme une sonate, non pas pour violon et piano, mais piano et violon,
oui,
ça va être important pour
ça,
vous.
Ça, c'est aussi ce que dit Proust, donc j'ai voulu respecter, bien sûr, à chaque fois que Proust parle de Vinteuil, j'ai voulu que j'ai pas changé une virgule. Hein. Et c'est important, oui, ça me paraît important, pour montrer aussi une forme de modernité de Vinteuil et montrer que les deux instruments, c'était pas le piano qui accompagnait, c'était vraiment un dialogue. Et d'ailleurs, cette notion de dialogue, on la retrouve aussi dans une des descriptions que fait Proust, où il compare le final, hein, deux oiseaux qui dialoguent l'un avec l'autre, comme si c'était seul au monde, comme si c'était au début du monde, c'est très, très poétique. Il a sans doute à ce moment-là dans la tête le début du canon du dernier mouvement de la sonate de Franck, où il y a effectivement ce dialogue. Et donc, oui, c'est une sonate pour piano et violon. Et Lequeu va écrire ensuite une sonate pour piano et violon. Donc, j'imagine que Lequeu s'inspire de Vintage.
Voilà, là, on l'a entendu lui aussi. Et Jérôme Bastianelli, je l'ai dit en introduction, vous êtes le président des Amis de Marcel Proust, donc vous connaissez très bien son œuvre, évidemment. On sait que c'était un fin mélomane, qu'il était très, très cultivé. Est-ce que, il a nourri vraisemblablement cette sonate de Vinteuil de sa connaissance des musiques de son temps. Est-ce que vous aujourd'hui vous avez une idée de quelles sont les œuvres qui ont pu inspirer Proust ou si c'est totalement imaginaire à votre avis?
Alors il en fait lui-même une liste très très longue.
Il brouille
un peu
les
pistes.
Tout à fait.
Et puis je pense que c'est un peu comme les personnages de La Recherche du Temps Perdu qui sont des mélanges de différents personnages réels qu'il a croisés. Là c'est un mélange de différentes sonates. Donc on a pensé à Franck, on a pensé à Saint-Saëns, on parle aussi de Lohengrin, il parle même de Schubert. Enfin, la liste est vraiment
de
l'Arietta de l'Opus 11 aussi. Donc la liste est vraiment très longue. Mais je crois que c'est aussi toute la magie de Proust. Chacun entendra la sonate de Vinteuil qu'il a envie d'entendre, et parce que les descriptions sont à la fois très poétiques et très belles, mais en même temps, d'un point de vue purement analyse musicale, c'est pas ça qui vous aiderait à recomposer une sonate de Vinteuil, parce que à part quelques petits détails, on sait qu'il y a des tris, qu'il y a une phrase musicale qui apparaît couverte par des tris. Bon, ça, c'est assez précis, mais pour le reste, c'est plus l'expression d'une émotion que l'expression d'une description, et tant mieux d'ailleurs, purement analytique de la partition. Donc chacun entendra, écrira et trouvera sa propre sonate de Vinteuil suivant son expressivité, sa sensibilité.
Sonate de Vinteuil et sa fameuse petite phrase. Et puis aussi, donc, il y a le septuor qui, là, vous faites un parallèle avec celui de Saint-Saëns. Jérôme Bastianelli.
Oui, un parallèle, mais plutôt pour les opposer, parce que celui de Saint-Saëns, c'est vraiment
pas du tout le même caractère, a priori.
C'est un truc, quelque chose d'un peu une pochade là qu'il écrit pour des musiciens amateurs, alors que l'œuvre de Vinteuil est quelque chose de plus austère, vraiment le testament musical de Vinteuil.
Très bien, merci beaucoup Jérôme Bastianelli. Je rappelle le titre de votre livre qui se lit vraiment comme un roman et une biographie romancée, La vraie vie de Vinteuil de Jérôme Bastianelli. Aux éditions Grasset, il y avait aujourd'hui la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Olivier Dupré, attaché de production Annick Aumier.
À réécouter sur francemusique.fr.